France Inter. Le masque et la plume. 5 livres et des coups de cœur sont au sommaire du masque de ce jour, avec les nouveaux romans de Roberto Saviano, Camille Kouchner, Elisabeth Benoît, Eva Ionesco et Jean-Baptiste Delamo. Pour en débattre, sont installés sur scène Elisabeth Philippe du Nouvel Obs, Hubert Artus de Lire Magazine et du Parisien Weekend, Jean-Marc Proust du média en ligne Slate et Arnaud Vivian de la revue Regard.fr. Le programme compte une plongée dans la lutte anti-mafia, le procès qui opposa Johnny Depp à Amber Heard, l'adolescence de deux jeunes femmes dans le Paris des années 80 et une maison maléfique dans la banlieue toulousaine. Bonjour et bienvenue pour ce nouveau masque littéraire. Dans le courrier de la semaine, vous continuez de vous faire l'écho du masque spécial polar qui s'est tenu à Lyon au début du mois dernier, et Elisa Soutine ouvre le bal en s'exclamant « Pas touche à Michael ». Il s'agit de Michael Connelly, qui selon elle reste un maître du polar grand public. Mais vous êtes plusieurs à poursuivre le débat. Parmi ceux qui sont d'un avis contraire, je citerai Benoît Graveau de Rennes. Bien que fan de la première heure, cet auditeur estime que Michael Connelly est tombé dans le syndrome de la clôture de ranch à repeindre. Et pour ça, il produit, je cite, « des ouvrages insipides lancés par une redoutable promotion marketing ». Benoît Graveau vous conseille au passage la lecture des auteurs des éditions Gallmeister. Vous continuez à être nombreuses et nombreux à nous remercier pour la recommandation de « Piège à loup » du Norvégien Aslak Nord, excellent roman à la fois historique et d'espionnage, selon Luc Bernard. Sur Instagram, Élodie s'étonne agréablement du débat qui eut lieu lors du dernier masque autour de la fugue d'Aurélie Valogne. J'étais certaine que le livre se ferait descendre dans une ambiance moqueuse, voire méprisante, écrit cette auditrice. Et pour tout avouer, je m'en réjouissais d'avance. S'il a été dit que la fugue était stylistiquement nulle, j'ai trouvé vos échanges sur les prétentions de certains auteurs, l'humilité de Valogne et les enjeux de la littérature populaire passionnants. Le masque, c'est aussi ça, en apprendre sur des livres qu'on n'achètera pas. Jean-Louis Zamboni, qui fut libraire, fait partie de ceux qui ont vécu ce débat totalement différemment. Il écrit « Vous entendre recommander la lecture du dernier Aurélie Valogne qui, si je vous ai bien compris, bien que pauvre stylistiquement et d'une grande sincérité, m'a fait tomber de mon fauteuil. » Si je peux me permettre, je crois que le débat a peut-être soulevé d'autres questions que celle-ci. Mais cet auditeur conclut « Ma frangine l'a acheté sur vos conseils et c'est moi qui me suis fait enguirlander pour ne pas l'en avoir empêché. Vous lui devez 20,90 €, elle accepte l'échec. » On commence avec « La nuit ravagée », nouveau roman de Jean-Baptiste Delamo qui fut lauréat du Livre Inter en 2017 pour « Le règne animal ». Avec « La nuit ravagée », nous sommes dans la banlieue pavillonnaire de Toulouse au milieu des années 90. 4 ados fréquentent le même lycée et Jean-Baptiste Delamo prend soin de s'attarder sur les drames et les désirs de chacun. À ces 4 garçons se joint une nouvelle venue dans le quartier, elle s'appelle Léna. Elle et sa mère ont fui un beau-père violent. Très vite, il est précisé que les moments d'insouciance vécus par ce club des 5 vont être les derniers, parce que ces ados sont aimantés par une maison abandonnée située dans l'impasse du quartier. Ils vont en franchir le seuil et cette maison va se nourrir de leurs fantasmes et de leurs peurs. La nuit ravagée, donc un roman d'horreur, voire gore, comme on pourrait le dire d'un film, avec morts vivants, corps en décomposition, insectes géants, etc. Jean-Baptiste Delamo précise d'ailleurs dans une postface l'hommage qu'il rend au film d'horreur des années 80 et 90. Qu'en as-tu pensé, Elisabeth ?
Alors, je trouve que l'horreur va très bien au teint de Jean-Baptiste Delamo, qui est un auteur qui habituellement, je ne suis pas forcément sensible à son écriture plutôt précieuse, très travaillée. Et là, j'ai retrouvé un immense plaisir de lecture de ceux qu'on peut avoir justement à l'adolescence, où on a cette impression d'être en totale immersion dans la fiction. Et donc, je n'arrêtais pas de tourner les pages en me disant « mais c'est génial, c'est génial ». Et on est vraiment happé par ce roman, comme les 5 adolescents le sont par la maison. C'est-à-dire que cette maison, aussi inhospitalière soit-elle, elle nous retient. Dans la maison, justement, ils ressentent tous une forme d'engourdissement quand ils sont confrontés à ces visions. Ils parlent d'une espèce de pollen narcotique qui les enivre, et on ressent exactement ça. Ça tient certainement, évidemment, à la construction extrêmement maligne de Jean-Baptiste Delamo, à la façon dont il fait monter progressivement la tension, la peur. Il met des fausses pistes. Et puis, tu le disais, il y a toutes ces références évidemment à Stephen King en premier lieu, mais à plein de films d'horreur, La Mouche, etc.
Aux griffes de la nuit.
Aux griffes de la nuit, bien sûr, Freddy Krueger. Mais le fait que ce soit hyper référencé, en fait, ça nous installe dans un univers familier. On a tous ces références, on a tous ces images en tête. Donc, on ressent vraiment dans cette maison abandonnée, dans cette maison hantée, ce sentiment de unheimlich, d'inquiétante étrangeté, à la fois une familiarité et une inquiétude. Et je trouve en plus que Jean-Baptiste Delamo, enfin, comme tous les grands livres d'horreur, c'est toujours les meilleurs livres qui parlent de l'adolescence. Comme Carrie, par exemple, de Stephen King, c'est vraiment cette période où on se sent soi-même un peu monstrueux, avec les transformations physiques, avec cette confrontation à nos peurs, à nos pulsions, à nos désirs qui nous submergent comme ça.
De l'adolescence et du queer aussi.
Et c'est queer. Alors ça, c'est le point intéressant dans la postface où il dit que lui-même, Jean-Baptiste Delamo, en tant qu'adolescent gay, dans un petit village aussi du sud-ouest de la France, les films d'horreur étaient pour lui une
catharsis.
Une forme de catharsis, et puis une forme d'identification aussi, un peu biaisée comme ça. Donc je trouve que c'est absolument formidable.
Est-ce que tu as été happé par cette maison, toi aussi, Arnaud ?
Mais la dernière fois qu'un écrivain français s'est pris, entre guillemets, pour Stephen King, c'était Laurent Mauvigné. On peut pas dire que ça lui est vraiment réussi. Je crois qu'aujourd'hui, il écrit plus que... J'ai pas vu de nouveaux romans. Il faut dire qu'il avait choisi la difficulté, Laurent Mauvigné, puisqu'il écrivait un roman d'horreur avec des phrases aussi longues que Claude Simon. Au moins, Jean-Baptiste Delamo a choisi d'écrire...
Il était formidable, le livre de Mauvigné.
Oui, mais là, on parle de Delamo.
Je préfère celui de Jean-Baptiste Delamo, qui, lui, pour le coup, écrit, comme Stephen King, on va dire,
mieux.
Voilà, avec efficacité. Oui, enfin bon, moi, j'admire vraiment Stephen King. Donc,
oui,
franchement,
la barre est très très haute, quoi.
Parce que quand même, il utilise des rouages. En même temps, c'est assez beau, mais c'est la maison hantée. Genre, c'est quand même pas très original. C'est l'araignée qu'on voit arriver, mais alors vraiment de très 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 loin. Ce qui est beau là, effectivement, c'est ce que t'as dit, Elisabeth, c'est que ces adolescents sont plongés eux-mêmes dans la culture d'horreur qui était très importante dans ces années 90. Avec notamment les adaptations de Stephen King par Carpenter, par exemple, The Thing. Je crois que c'est ça, en fait, le fameux ça freudien là, qui revient du côté de l'horreur. Et effectivement, tu viens de le dire aussi, c'est toutes ces angoisses adolescentes qui sont catharsisées par l'horreur. Voilà. Moi, je trouve ça, si vous voulez, j'ai pris mon plaisir, mais il est un peu régressif quand même, je trouve. Voilà.
C'est quand même un roman d'horreur qui s'attarde. Il y a un soin pour décrire chacun des personnages. Oui. Hubert.
Je suis d'accord, et c'est pour ça que je souscris à ce qui a été dit, même si moi, je vénère assez Stephen King, et que Delamo est quand même, pour toute proportion gardée, pour le moment, de ça. Hein, mais on est quand même extrêmement, extrêmement, on est plus haut que la Champions League, là, quand même. Mais ce qui est bien dans les films et les romans d'horreur, c'est quand ça mute. Et ici, sur le fond, comme sur la forme, ça mute, c'est ça, récit d'horreur. C'est ça qu'on demande chez Stephen King, chez Carpenter, chez qui vous voulez. Et là, je trouve que, de la même manière que la maison, au début, c'est une maison fermée, après ils y rentrent, après ça va être plusieurs choses, ça va être un labyrinthe, et je ne spoile pas, donc je vais pas aller plus loin, mais enfin, ça ne cesse de muter. Le propos lui-même ne cesse de muter, parce qu'au début, c'est juste un exercice de style, et moi, ça m'a un peu gonflé, alors que j'adore Jean-Baptiste Delamo. Reine à l'Iman, 2016, j'avais beaucoup aimé. Là, ici, on retrouve non seulement un hommage au récit d'horreur de son adolescence, avec toutes les interrogations sur le questionnement des genres, genre sexuel, genre littéraire, genre fictionnel, genre citoyen, que cela sous-tend, mais aussi c'est un roman qui est un exercice de style, qui devient un roman de générationnel, un hommage au slash, et puis un roman sur la citoyenneté à cette époque-là, sur les rapports filles-garçons, sur les rapports à l'école, sur le rapport à la fiction, sur les rapports à la mutation, sur les genres sexuels, sur l'identité sexuelle. Ce qui est bien, c'est quand ça mute.
Ce qui fait beaucoup de thèmes.
Et ici, non mais il y a plein de tiroirs. Mais c'est ça le roman d'horreur, c'est ça le roman de genre, c'est pour ça qu'on kiffe.
Oui, mais c'est très fluide, parce que là on a l'impression d'une espèce d'empilement, d'accumulation de thèmes, et c'est ouais, pas
c'est
du tout
beaucoup mieux écrit que ce que moi je l'ai dit, je tiens à le préciser.
C'est pas ce que je sous-entendais. Jean-Marc.
Moi je suis assez d'accord avec vous, je trouve que c'est plutôt un bon roman, et je trouve d'abord que c'est intéressant que ce soit un roman horrifique qui soit publié dans la collection Blanche de Gallimard. Ça dit quelque chose de l'évolution du genre dans la littérature.
C'est présenté comme ça,
ça fait partie
comme
de
le premier roman horrifique de la collection Blanche.
Voilà. Et puis ensuite, il y a toute une série de références qui sont glissées assez malicieusement dans le roman, c'est-à-dire que cette maison hantée qui est aussi un peu une maison magique où on obtient ce qu'on veut. Moi j'ai vu Aladdin et la lampe merveilleuse. Ensuite, la mythologie, par exemple, à un moment donné, dans cette maison hantée, Il y en a un qui voit surgir trois actrices bimbo, etc. C'est les trois sirènes de la mythologie, en fait. On est dans ce genre de séduction, d'inquiétude. Il nous parle du Club des Cinq. Enfin, il y a plein de choses qui se mélangent. Et puis, il y a Stephen King. Moi, je pense que la référence à Stephen King est explicite, mais je crois que, même si ça, le roman auquel il se réfère en partie, est pas tout à fait repris dans le texte, il va un peu plus loin. Pour moi, cette maison, c'est vraiment le symbole de l'adolescence, en fait. C'est-à-dire qu'ils vont dans l'adolescent, dans cette maison, et ils arrivent à devenir adultes parce qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ils s'aperçoivent
mais
que...
Mais c'est là qu'ils perdent leurs illusions aussi, finalement.
Ils perdent leurs illusions, mais c'est-à-dire qu'en fait, c'est ça aussi c'est l'âge de l'adolescence. Et puis cette maison, enfin, c'est un truc gore, il y a des viscères partout, ça gicle, ça suppure, ça suinte, ça dégouline. C'est vraiment l'adolescence telle qu'elle s'exprime, quoi.
La vision de l'adolescence, monsieur Proust.
J'avais parfois l'impression d'être un dîner de gala de la Confédération des Tripiers de France. Vraiment, c'est des... Il y a du gore et c'est peut-être pour ça, moi, la limite du roman, c'est que je me suis dit, à un moment donné, c'est un peu trop, ça vire dans le côté grand guignol, nanar, et j'aurais bien aimé, à deux, trois moments, avoir un peu plus peur.
Bah, cela dit, même si on n'est pas spécialement client de la littérature d'horreur ou même les films d'horreur, je trouve aussi que c'est un livre qui a tendance à nous happer. La nuit ravagée de Jean-Baptiste Delamo est publié chez Gallimard dans la collection Blanche. Donc, on va parler maintenant d'Immortel au pluriel, premier roman de Camille Kouchner, après la publication Événement de la Familia Grande, où Camille Kouchner révélait l'inceste commis par son beau-père sur son frère jumeau. Immortel est donc une première fiction où la narratrice se prénomme K, comme la lettre. Elle se réveille dans une chambre d'hôpital après avoir subi une mastectomie. Pendant son réveil, les souvenirs de son enfance et de son adolescence reviennent par flash. La vie de K a longtemps fusionné avec celle de Ben, un garçon avec qui elle a grandi, et elle définit leur relation en écrivant « Ben était la seule fille que je voulais être ». J'étais le seul garçon dont il aimait l'incarnation. Mais l'éducation de ces deux gosses les ramène avec violence au carcan du masculin et du féminin. Immortel est notamment le récit de cette éducation dans un milieu très aisé, intellectuel, où les enfants sont souvent livrés à eux-mêmes, où les parents 68ards portent leur victoire en étendard, comme la liberté sexuelle, avec les dégâts que ça peut supposer. Arnaud ?
En fait, elle continue le travail qu'elle a commencé avec...
La Familia Grande.
Oui, la Familia Grande, hein, c'est-à-dire expliquer effectivement comment une génération sont les enfants de ces intellectuels de gauche qui emmènent leurs enfants à la grande fête SOS Racisme, Place de la Concorde...
Qui fête la victoire de Mitterrand.
C'est Place de la Bastille, ceci dit.
Hein ?
T'as dit Place de la Concorde.
Oui, Place de la Concorde.
C'était 2007 Sarkozy.
Il y a confusion.
Le concert SOS Racisme.
Le concert de SOS Racisme, c'était effectivement Place de la Concorde.
C'est Place de la Concorde, 81, Mitterrand, pardon. Autant pour moi.
C'est pas grave. On peut dire des conneries, ça arrive.
Là, j'en ai dit une.
À toi, Arnaud.
Ça ressemble un petit peu à la relation qu'elle a avec Ben, avec ce qu'on appelait au 19e siècle un frère de lait. C'est pas son frère d'un point de vue biologique. Et c'est très important, évidemment, dans cette histoire. Hein. Mmh. C'est qu'il y a des liens au-delà des liens du sang qui sont très forts. Ils sont élevés ensemble. Mais ils sont pas simplement élevés ensemble. C'est pas le rapport d'un frère et d'une sœur. C'est là aussi, encore, où c'est très beau. C'est que c'est le rapport d'un, on pourrait presque dire, d'un binôme.
Il y a l'histoire, il y a une notion de cellule,
voilà,
d'ailleurs.
Et effectivement, comme tu l'as dit, ils sont non-binaires. C'est-à-dire,
qu'ils
n'ont pas posé la question de leur genre. Il se trouve qu'elle est une fille, que lui, c'est un garçon. Mais en fait, ils ne le vivent pas comme ça. Et arrive alors, là, pour le coup, le drame de l'adolescence, c'est-à-dire qu'ils se séparent. Et c'est cette séparation qu'elle vit, parce que c'est l'entrée dans la sexualité.
C'est la société qui les sépare, c'est les injonctions patriarcales qui les
séparent. Oui, et comment dire aussi, l'idée même de la sexualité. Hein, avec cette entrée, on ne va pas tout raconter, mais elle, évidemment, elle va entrer dans la sexualité de la pire des façons qui soit. Voilà.
Jean-Marc ?
Moi, je la préfère comme essayiste que comme romancière. J'ai trouvé que le roman était relativement un peu léger, en quelque sorte. Le mode de je tue, tout au long du texte m'a un peu fatigué. En revanche, j'étais vraiment intéressé par ce qu'elle raconte de cette génération élevée par des intellectuels de gauche, post-68ards, apôtres et acteurs de la liberté sexuelle, et qui considèrent que leur mode de vie est une méthode éducative. Et en fait, ils l'imposent à leurs enfants, et c'est d'une extrême violence, parce que en fait, ils nient totalement à leurs enfants le droit d'être des enfants. Et on se retrouve avec des gamins incroyablement politisé, qui est l'âge de 10 ans ou 11 ans en entrant au collège, 10 ça c'est de droite, ça c'est de gauche, etc. Ils ont une culture politique que j'avais pas à 30 ans. C'est totalement dingue. Ils ont des parents qui imposent leur sexualité de manière visible ou juste par la parole et qui imposent à leurs enfants aussi de vivre cette sexualité parce que eux ont obtenu la liberté sexuelle, ils se disent « Ah ben, pour mes enfants, il faut vite qu'ils en profitent. » Et donc, dès qu'elle est au collège, sa mère lui dit « Il faut que tu te fasses dépuceler. » Elle rentre au collège. Donc, on est dans une logique d'éducation totalement folle. Et ça donne des gamins qui, probablement, ont vécu très difficilement cette période et le fait de grandir, l'adolescence, etc., et même au-delà. Et ce qui est intéressant, c'est que le livre, d'après ce qu'elle dit, elle l'a écrit en partie à partir de son expérience personnelle, mais aussi à partir de témoignages.
Et donc, des témoignages reçus après la publication de La Famille Agrandée.
Après la publication de La Famille Agrandée. Et donc, il y a une génération de ces enfants élevés par des post-68ards qui ont quand même des traumatismes à raconter. Et c'est ça qu'elle restitue dans son livre, que je trouve stylistiquement relativement pauvre, mais comme témoignage, me paraît d'une certaine force.
Hubert ?
Alors, moi, j'ai une lecture un chouïa moins politique que ça, parce que ce qui m'a happé, justement, et là où je l'attendais au tournant, c'est que pour moi, c'est une autofiction dans le sens le plus universel du terme, c'est-à-dire que c'est intime et social, c'est personnel et universel.
Elle ne le définit pas du tout comme une autofiction.
Non, mais moi, c'est vraiment comme ça que je l'ai vu, c'est d'ailleurs comme ça que je l'ai présenté, parce que, effectivement, bon, après, elle joue avec ses codes aussi l'autofiction, elle déjoue avec, hein, le cas qui est la narratrice, etc. Bon, c'est un jeu aussi. Mais c'est aussi en ça, d'ailleurs, que pour moi, c'est une autofiction dans le bon sens littéraire du terme. Je trouve que c'est aussi un livre sur le cancer, et c'est exprimé à un moment, c'est verbalisé, cette histoire de cellules saines qui ne sont qu'une, elle et Ben, qui à un moment deviennent cellules attaquées, puis cellules mannequins. Et c'est comme ça qu'elle verbalise au début la séparation affective, corporelle, amicale entre les deux. C'est un livre sur la maladie, sur le cancer. C'est un livre qui peut être lu comme tel d'ailleurs par toutes celles et ceux qui ont traversé ces tragédies de maladie, quelles qu'elles soient, comme maladie, épidémie, mortelle. C'est en ça aussi que c'est universel. Ça peut parler du sida aussi bien que du cancer, de toutes les autres tragédies de ce malheureux, enfin de ce tragique style. Et c'est là où c'est littérairement fort, en plus qu'un témoignage générationnel sur comment ce que, avec une génération de féministes qui ont plus ou moins fait leur travail et la mère de la narratrice ne l'a en l'occurrence ici pas faite, comment ce qu'on se débrouille pour ne pas se trahir soi-même après avoir été trahi, parce que c'est aussi ça qu'elle raconte. Je pense que là aussi sur le fond et sur la forme, stylistiquement et politiquement, c'est une autofiction dans le sens le plus pratique et le plus universel du terme.
Mais continuons à parler d'écriture justement, parce que le sujet même de La Famille Agrandée avait totalement éclipsé l'écriture de Camille Kouchner. Elisabeth.
Là, je trouve que justement, sans en avoir l'air, je trouve qu'elle opère quelque chose de très intelligent et de très intéressant, Camille Kouchner, puisque au cœur de son livre, il y a cette idée de binarité, justement, la binarité de genre, et elle écrit beaucoup avec des systèmes d'écho, de double, de répétition. Il y a aussi cette image de la lumière, puisque la narratrice donc, se réveille dans une chambre d'hôpital et il y a ces lumières qui clignotent rouge, vert, et donc ça vient sous-tendre le propos aussi qui consiste à aller contre cette binarité et le rythme lui-même épouse cette binarité. Et en fait, moi, j'ai lu ce livre, j'avais tout le temps en tête, vous savez, le mythe de l'androgyne de Platon dans le Phèdre, cette entité mythique qui était formée d'un homme et d'une femme, et puis qui formait un tout et qui a fini par être séparée. Et j'ai vu Ben et K comme ce mythe platonicien de l'androgyne. Donc, je trouve ça très, très beau. Et pour moi, ce livre, justement, je trouve que Camille Kouchner, elle opère un passage en douceur de l'essai à la fiction, de l'essai au roman, puisque, comme tu le disais très bien, Arnaud, elle reprend des éléments de La Famille Agrandée, mais j'ai l'impression qu'elle, d'une part, elle solde ses comptes avec l'éducation qu'elle a reçue, cette éducation 68ard, comme Virginie Linhart, par exemple, et d'un autre côté, j'ai l'impression aussi qu'elle paye sa dette envers les auteurs et les autrices qui l'ont nourrie, certainement, en exergue, il y a une citation de Monique Wittig, donc certainement toute cette théorie féministe qu'on sent qu'elle a absorbée, qui ne vient jamais plomber son discours, son texte n'est jamais théorique, mais au contraire, elle l'incorpore à sa narration, elle en fait un élément purement romanesque, et je trouve que c'est extrêmement intelligent, et derrière ce texte qui se lit effectivement comme une autofiction, comme une fiction, peu importe. Pour moi, c'est un manifeste aussi très intelligent pour un monde qui pourrait venir, un monde à venir.
Un monde nouveau.
Justement, on dépasserait cette binarité de genre.
Immortel de Camille Kouchner est publié au Seuil. On continue avec Giovanni Falcone, roman de Roberto Saviano, consacré aux 20 dernières années de Falcone, ce juge antimafia mort en 1992 avec ses trois gardes du corps et sa femme, Francesca Morvillo. Tous les cinq furent assassinés dans un attentat à la bombe commandité par Toto Riina, l'un des plus puissants parrains de la mafia. Et plus on avance dans la lecture du livre, plus leur mort semble inéluctable, parce que Saviano retrace ce qu'il appelle une course de relais. Et ce que juge et policier se relaient, c'est à la fois la lutte contre la mafia, mais c'est aussi la mort, puisque Giovanni Falcone s'inscrit dans une longue lignée de juges et de policiers assassinés, les uns après les autres. D'ailleurs, le titre italien du livre est peut-être plus juste que celui qui a été choisi pour l'édition française. Ce titre italien, c'est « Le courage est solitaire », qui est aussi la dernière phrase du roman, d'ailleurs. Et Saviano fait vivre ce courage, cette solitude, et la peur qui va avec de l'intérieur, puisqu'il l'éprouve lui-même au quotidien. Roberto Saviano, comme vous le savez, vit sous les menaces de mort de la mafia depuis 2006, date à laquelle fut publié son premier roman enquête, intitulé « Gomorra ». Hubert.
C'est un roman vrai, c'est ce qu'on appelle un roman sans fiction, parce qu'il y a évidemment zéro fiction, mais quelle dramaturgie! Ça commence en 1943, hein, je parlerai que de la scène d'exposition, avec dans la campagne de Corleone, en Sicile, un père et son fils qui ramènent une bombe américaine qui n'a pas explosé, ça explose, et puis on voit un mafieux, une femme grandir, celui qui sera un mafieux, qui sera un des ennemis de Falcone. C'est des chapitres courts qui font 5-6 pages, mais qui sont anglais de façon différente.
Heureusement que les chapitres sont courts d'ailleurs, parce qu'il y a énormément d'informations. C'est très très dense et
ça permet une densité folle. Des personnages qui surgissent en permanence, qui sont balayés par deux rafales de mitraillettes qui disparaissent. On a, quelque chose comme 500 ou 600 pages en un caractère très petit. Enfin bon, c'est un don. C'est un livre très très dense. Tu parles de dramaturgie. J'ai eu l'impression d'être face à un monument aux morts, c'est-à-dire quelque chose face auquel on s'incline,
c'est un tombeau littéraire,
austère, sombre. Et au fur et à mesure que je le lisais, je voyais des noms qui passaient, je voyais des dates, je voyais des morts, mais comme devant un monument aux morts, c'est-à-dire que je m'incline et j'oublie au fur et à mesure. Et je trouve qu'il manque à ce roman justement de l'épaisseur, de la dramaturgie, un petit peu de chair. C'est-à-dire la vie de Falcone.
Il n'y a que ça. C'est une tragédie antique.
Non, ce n'est pas une tragédie antique. Pour moi, la vie de Falcone est racontée d'une manière que j'ai trouvée assez triste, c'est-à-dire qu'on voit beaucoup d'intrigues, de vie de bureau. Est-ce qu'il aura ce poste ou est-ce que les juges ou les politiciens gangrénés par la mafia vont l'en empêcher ? Et je trouvais que par rapport au personnage de Falcone, j'avais envie d'être m'indigner, de m'émouvoir, etc. J'avais l'impression de lire quelque chose écrit par un greffier. Et c'est ça qui m'a gêné dans ce roman. Maintenant, je vous laisse
mais
la parole.
Mais c'est pas un roman, c'est parce que c'est pas une fiction, à mon sens.
C'est ce qu'on appelle un roman vrai.
Saviano n'a jamais écrit de roman, il a toujours écrit Gomorra, etc. Il a toujours écrit ce qu'on appelle en littérature des romans vrais, des romans sans fiction. C'est un genre littéraire, le roman sans fiction.
Exactement, je sais que c'est comme ça qu'il l'a écrit. J'aurais préféré, pour ma part, comme lecteur, qu'il dissèque un petit peu son texte, qu'il aille jusqu'à l'os, qu'il ait une colonne vertébrale.
Il n'a pas éprouvé la peur, la terreur qui habite en permanence Falcone, qui vit avec cette peur, et tous les personnages autour de lui, en tout cas tous les juges, tous les magistrats qui sont dans la même mission, je trouve qu'on l'éprouve réellement, cette tension-là.
Dois avoir le cuir trop endurci.
Mais c'est ça.
Tu n'as pas de cœur, Jean-Marc Proust.
Je n'ai pas peur, ce n'est pas une question de cœur.
Ils avaient peut-être pas les mêmes risques non plus. Moi, je l'ai lu comme un opéra, en fait, ce livre. Je trouve qu'il y a des leitmotifs, comme dans un opéra. Et là, les leitmotifs, c'est les meurtres qui viennent scander la narration. Effectivement, tu l'as très bien dit, Jean-Marc. À peine on découvre un personnage que, quelques pages plus loin, eh bien, il meurt, soit dans une explosion, soit avec une rafale de Kalachnikov. Je trouve qu'au contraire, il y a un côté hyper réaliste dans ce livre. Il y a de la chair, par exemple, on est tout le temps dans cette espèce de moiteur palermitaine, les chemises trempées de sueur. Enfin, tu vois, là, il y a quelque chose quand même. C'est pas simplement un greffier qui nous...
Non, mais je vais prendre un exemple. Quand il est dans sa vie conjugale, il manque d'éléments pour raconter ça. Tout le reste, il a les éléments.
Il s'en explique à la fin.
Et dans la vie conjugale, il n'y a rien d'inventé. Il ne sait pas quoi raconter. Oui. En fait, Francesca fait des pâtes et lui écoute de la musique. Il ne se passe rien. En fait, il a pas grand-chose à raconter de romanesque.
Il a vraiment pas de cœur. Tu n'as pas de cœur.
C'est peut-être pas la peine non plus d'en rajouter dans la mesure où tout ce qui se passe est tellement énorme. Je trouve que oui, il y a cette dimension d'opéra, en tout cas à mes yeux, et en même temps, ça n'est jamais une vision romantique de la mafia. Enfin, c'est stupéfiant, la violence en permanence. Je veux dire, à un moment, ils s'en prennent carrément pendant le maxi-procès, ce qui va être le maxi-procès donc de toutes
1987.
Il y a combien de, une centaine 400 de, et quelques, de mafieux, 400 mafieux ouais. qui sont
c'est
jugés.
C'est le plus grand procès contre la mafia de l'histoire.
Exactement.
Avec un bâtiment spécialement conçu.
Et la mafia
des balles,
va s'en prendre au fils de l'homme qui tient l'entreprise de nettoyage du tribunal. Ce gamin a 11 ans. Et ils vont lui tirer une balle entre les deux yeux de sang-froid. C'est effarant, et moi, je n'avais pas souvenir d'une telle, un tel déferlement de violence. Ouais. C'est en permanence, ça ne cesse jamais. Et c'est vrai que parfois, ça peut être un peu fastidieux, parce qu'on sent que c'est le roman de sa vie pour Saviano. Oui. Il y a une foule de détails, il connaît tout, jusqu'à la collection de canards du juge Falcon dans son bureau, ouais. jusqu'à cette femme qui accompagne, je ne sais plus si c'est un juge ou un policier, qui échappe par miracle à un attentat, parce qu'elle avait sur elle un petit agenda à la couverture en argent,
oui,
mais qui c'est la protège
aussi
d'une balle. Mais c'est
ce genre de détail qui fait l'incarnation.
Non, là où moi, à un moment, j'ai un peu décroché, c'est toutes les luttes internes dans ce qu'il appelle le palais ouais. des venins entre les différents juges. Mais oui. en même temps, on voit à quel point Falcon, au fur et à mesure, va être lâché même par ses
Exactement.
Amis, par ses proches. Et c'est vraiment... Il y a un côté martyr quand même. Il y a une dimension religieuse aussi dans ce livre. C'est un homme seul face au mal. Et en cela, je trouve que c'est quand même assez époustouflant.
Arnaud.
Pour moi, je ne crois pas avoir utilisé depuis le début de cette saison le mot, mais pour moi c'est un chef-d'œuvre.
Mais je crois que c'est plusieurs fois que tu fais ça.
Non, je ne crois pas l'avoir dit de l'année, là.
Ah, de
une fois par an, c'est bien. Une fois par an, ça va, quoi.
Et donc c'est aujourd'hui.
Et c'est aujourd'hui, je pense que ce livre est un chef-d'œuvre. Il effectivement, il est dense, ça, on ne va pas dire le contraire, mais il est découpé d'une manière en courts chapitres qui sont tout à fait admirables. J'étais gosse quand il y a eu l'attentat du général Della Chiesa, mais on en parlait partout, je veux dire, on voyait les images en France. Pourquoi ? Parce que c'est le moment où la mafia décide d'utiliser, c'est pour ça que c'est les bombes.
81,
y compris,
82,
hein, voilà, Della Chiesa, il est tué par une bombe, comme va être tué Falcon par une bombe. Et alors, le chapitre qui explique comment la mafia prépare la mort de Falcon, l'attentat à la bombe, mais c'est incroyable de...
aucune chance.
De précision. Et en fait, il y a ce Falcon, ce qui est beau, et je veux dire, ce livre est extrêmement tragique, c'est que lui, il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il va mourir, il en est sûr. C'est un condamné à mort. Et la seule chose à laquelle il pense, c'est est-ce que sa femme va mourir avec lui ? Je vous laisse deviner, enfin savoir, apprendre ce qui va arriver à sa femme. Mais toujours est-il qu'à la fin du livre, il y a cette chose que je trouve, mais moi, j'ai les larmes aux yeux, quoi. Vous avez la photo de Falcon. Et vous voyez qui était physiquement Falcon. Et là, vous n'en revenez pas, quoi. Un petit gros rondouillard.
Souriant.
Totalement jovial. Ouais. Incroyable, quoi. Un jour, j'ai dit une grosse connerie à ce micro.
Non.
J'en ai dit d'autres, ouais. Bon, parce qu'on parlait de Piranha, un roman de...
Fabiano.
Là aussi, hein. Et j'avais dit, ce n'est pas un écrivain. Bon, j'ai encore honte de l'avoir dit, quoi. C'est un immense écrivain. Voilà.
Giovanni Falcone de Roberto Saviano est traduit de l'italien par Laura Brignon et c'est publié chez Gallimard. On passe maintenant à Toronto, deuxième roman de l'autrice québécoise Elisabeth Benoît, publié chez POL. Toronto est le récit d'une fascination pour les documents liés au procès qui ont opposé Johnny Depp et son ex-femme Amber Heard. Deux procès où ils s'accusaient mutuellement de diffamation et de violence conjugale. L'ambition du livre d'Elisabeth Benoît n'est pas d'établir la vérité des faits, mais de brasser une multitude d'archives disponibles sur Internet, des minutes de procès, des SMS, des enregistrements de leurs disputes, parce que Johnny Depp et Amber Heard s'enregistraient. Donc, énormément de documents intimes et réels, devenu sujet d'une conversation mondiale et ici matière à roman. Le livre est un montage de paroles, celles de Johnny Depp, Amber Heard évidemment, mais aussi celles de leurs proches, collègues, acteurs, psy, gardes du corps, gardiens d'immeubles, etc. Ils prennent la parole successivement et la narratrice intervient pour apporter une précision ou dire son addiction à cette histoire que les réseaux abreuvent ad libitum et le tout donne un roman fleuve de 500 pages. Jean-Marc.
Je crois que c'est la pire chose qui m'était donnée de lire de toute mon existence. J'ai souffert comme jamais.
Je pense que c'est l'émission des premières fois.
Des aveux.
Je ne vais pas prononcer le mot chef-d'œuvre. Il faudrait trouver un mot pour ce genre de livre. C'est long, c'est creux, c'est insipide. Et le plus éprouvant, c'est comme tu l'as raconté, c'est que, je ne sais pas, il y a une assiette qui tombe par terre, elle est fêlée, donc il y a Johnny qui accuse Amber d'avoir cassé l'assiette. Et à ce moment-là, on a tout le monde qui donne son avis. Dire la cuisinière, le pilote du jet privé, la concierge, etc. Oui, alors l'assiette, elle a peut-être été cassée par Madame Amber. En tout cas, j'ai entendu des cris. C'est à ce niveau-là. Après, ils ont des dialogues entre eux qui sont totalement fous. Je vais vous lire un extrait. Admets ce que tu as dit. Je ne veux pas me disputer avec toi. Admets, je ne veux pas me disputer avec toi. Je te disais que je t'aimais. Ce n'est pas une dispute. Je ne vais pas me disputer avec toi au sujet d'une dispute. Ce n'est pas une dispute. Je ne vais pas me disputer avec toi, elle avait répété. Admets ce que tu as dit.
C'est interminable.
Dirait de Ionesco, c'est magnifique.
Et on a parfois...
L'autrice parle de Pinter.
Et on a parfois des rebondissements spectaculaires. Johnny se coupe un doigt. Alors, est-ce qu'il s'est coupé le doigt en jetant un téléphone sur un mur ou est-ce qu'il s'est coupé le doigt dans le verre d'une bouteille de vodka cassée par Amber?
En tout cas, tout le monde cherche le bout de doigt.
Tout le monde cherche le bout de doigt. Et ensuite, on a un caca dans le lit de Monsieur Johnny.
Oui.
Qui a fait le caca?
Une gourmandise bizarre.
Est-ce que c'est Madame Amber ou est-ce que c'est les chiens de Madame Amber? Et pendant des pages, il y a des gens qui disent « Ah, ben c'est sûrement Madame Amber. En tout cas, c'est pas un caca de chien. Parce que moi, les cacas de chien, je sais à quoi ça ressemble. » C'est ça, le livre. C'est 550 pages. C'est insupportable. Évitez-vous ce calvaire.
Oui, mais ça a été ça, le procès.
Madame Elisabeth.
Merci, Madame Rebecca. C'est aussi ça. Le procès, c'était ça. Et ça a scotché des millions d'internautes et de spectateurs pendant des jours devant leurs écrans. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une espèce d'anatomie.
Et pourquoi ces internautes, il fallait en faire des lecteurs?
C'est une anatomie de l'addiction, de la fascination. Alors moi, pendant, je dois vous avouer, il y avait vraiment... Toutes les deux minutes, je me disais, mais qu'est-ce que je suis en train de dire? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et on ressent un truc
toujours
un peu...
Toujours une bonne question.
Ben oui, toujours.
Mais tu le lis quand même.
Mais tu le lis. Et parce qu'il y a un côté un peu poisseux, un peu malsain. On se retrouve vraiment, on a l'impression de macérer dans ces draps sales, et vraiment littéralement sales. Hein, puisque, voilà,
je on confirme. Trouve, hein.
Donc ce linge très sale, effectivement, que l'ancien couple de stars a choisi de laver en public et pas en famille. Donc on est là à macérer un peu là-dedans, donc on se sent un peu cracra. Et malgré tout, et bien qu'on connaisse quand même une grande partie de ces éléments, parce que c'était hautement médiatisé, eh bien, en tout cas, pour ma part, je ne pouvais pas m'empêcher de tourner les pages. Je lisais ça avec une sorte d'avidité, mais avidité un peu malsaine, je
l'avoue. Puisque c'est le jour des aveux, idem.
C'est un peu le sujet du livre. Hein. C'est,
absolument.
C'est l'addiction.
Le sujet du livre, c'est le vrai sujet du livre. C'est qu'elle réussit absolument. Quelque chose, si elle arrive à la restituer et à la reprovoquer chez son lecteur, en tout
exactement,
cas chez moi.
Ouais.
Donc,
ouais.
C'est qu'il y a quand même quelque chose qui fonctionne. Et ça tient certainement au montage qu'elle fait, la façon dont elle agrège toutes ses paroles. Et ce que je trouve dingue aussi, c'est quand même ce qui est fascinant, c'est ce vide. C'est-à-dire ces gens qui ont tout, qui possèdent des penthouses absolument délirants à Los Angeles,
des
qui vont en jet
privé
dans leurs îles privées, etc. C'est la vacuité, c'est le vide de leur existence. C'est complètement fou. Et au bout d'un moment, il y a une espèce de truc hypnotique dans la langue parce qu'il y a beaucoup de discours indirects. Donc par exemple, Johnny dit ce que Amber a dit. Alors on est comme ça dans des espèces de narrations en tiroir, c'est complètement dingue. Et on est complètement pris dans les raies de cette langue démente, malade, toxique, comme d'une drogue.
T'as été drogué par le livre aussi,
En tout cas, j'essaie d'éviter l'addiction, en général. Ce que je remarque, c'est que l'autrice, elle, est dans l'addiction. Ça m'a rappelé, en fait, il y a quand même un grand livre qui sert un peu de maître étalon.
Un chef-d'œuvre.
Oui, c'est un chef-d'œuvre, en l'occurrence, mais assez vieux. C'est 200 fois de Truman Capote. Parce que Truman Capote a failli devenir fou avec cette histoire. De la même manière, ça fait penser, mais tout à fait différemment au niveau de la forme, à l'adversaire d'Emmanuel Carrère, qui lui aussi a failli tomber fou, il l'a dit souvent. La différence, c'est qu'il avait choisi une forme. Quand vous relisez l'adversaire aujourd'hui, vous vous apercevez que c'est très très court. Alors que elle prend tous les matériaux dont elle dispose, quand même, elle les met en scène, mais évidemment, on est loin de Saviano, là. Je veux dire, parce que, d'une certaine manière,
oui,
c'est pareil.
Officiellement.
Oui, non, mais c'est toujours du réel. Saviano, il travaille à partir du réel, des informations réelles sur le juge Falcone. Elle travaille aussi à partir de l'information réelle, mais là où lui fait un travail de mise en forme, elle ne le fait pas. Elle nous présente un peu les pièces du dossier, comme ça, et bah, il faut y aller, il faut plonger dedans. Il faut plonger dans la merde.
Ça vient nous.
Il faut dire carrément, hein, il faut y aller gaiement. Et alors, si vous aimez plonger dans la merde, ce qui peut être vraiment un truc, hein, eh ben, allez-y.
C'est un chef-d'œuvre pour coprofil.
Je souscris complètement à ce que Arnaud vient de dire, parce qu'effectivement, ce que Saviano a réussi à faire avec lui aussi, des verbatims, des documents, des rapports, etc., une geste littéraire à défaut de fictionnel, eh bien, Elisabeth Benoît voudrait le faire, mais elle n'y parvient pas. Elle n'y parvient pas non seulement parce que son sujet est assez nettement moins universel et assez nettement moins intéressant, et en
un
plus,
un couple qui
plus
se
récent.
Sépare, c'est assez universel quand même.
Pardon ?
Un couple qui se sépare et qui se déchire,
c'est
assez
universel. Oui, mais le côté un couple qui se sépare et qui prend l'avion pour faire 12 500 km
c'est moins universel.
Ah, ils ont un peu plus de moyens.
On n'a pas tous le même bilan carbone.
À la limite, elle aurait pu prendre à la rigolade. Moi, je rigole de la façon...
C'est mesquin comme argument.
Je rigole de la façon dont mon camarade Proust me raconte le livre. C'est ce que tu racontes que j'aurais voulu lire avec le même humour. Mais il n'y a pas cet humour-là dans le livre d'Elisabeth. Elisabeth Benoît. Elle pouvait faire soit plus court, soit ne pas faire, parce qu'elle avait réussi à le faire dans son premier livre, qui était l'histoire d'une hackeuse, etc. Elle avait réussi à le faire, d'où mon étonnement, pourquoi ne pas réussir ici.
Toronto d'Elisabeth Benoît est publié chez POL. On termine ce masque livre avec Grand Amour, troisième et dernier volet d'une série de romans autobiographiques qu'Eva Ionesco consacre à sa jeunesse. Une jeunesse brisée par sa mère, qui l'a fait poser pour des photos pédopornographiques et qui l'offre à des hommes de passage, comme Gabriel Matneff. Comme dans le roman précédent d'Eva Ionesco, nous sommes dans le Paris des années 70. On retrouve la même bande d'amis, ce Grand Amour, prénommé Charles, qui a 10 ans de plus qu'elle, quand elle en a 13. Le roman se déploie entre les 13 et 17 ans d'Eva Ionesco, entre nuit au palace et plongée dans un univers carcéral, celui de plusieurs centres de la DAS, où la jeune Eva est enfermée. Et le livre est notamment dédié aux filles de la DAS. Elisabeth.
Moi, je trouve que c'est... Chez Eva Ionesco, l'écriture, on a l'impression que c'est un geste rédempteur. D'ailleurs, son premier texte s'appelait « Innocence ». Donc, c'est vraiment comment essayer de réparer, de retrouver cette innocence perdue, cette enfance qui a été piétinée par sa mère et par tous les hommes à qui cette mère a offert Eva Ionesco. Et je trouve que c'est toujours par la beauté qu'Eva Ionesco combat cette noirceur dans laquelle elle a grandi. Et tu disais que le livre oscillait entre le jour et la nuit, mais tout est inversé, un peu comme dans un carnaval. C'est-à-dire que le jour, c'est l'enfer, c'est les journées dans l'appartement de sa mère qui sent le hashish, c'est les journées enfermées à la DAS. Et la nuit, au contraire, c'est la fête, c'est la liberté, c'est l'amour très sensuel, y compris dans le sexe. Elle va retrouver une forme d'innocence, de pureté. Donc je trouve que c'est vraiment extrêmement beau et c'est la beauté qui l'a sauvée. Il y a une scène magnifique, à un moment, elle sort de boîte de nuit, elle demande à ses amis d'aller voir le lever du soleil depuis l'aéroport d'Orly. Et pour moi, cette lumière du soleil, c'est vraiment, c'est ce qu'on retient, c'est ce qui reste du livre d'Eva Ionesco, qui est toujours, en plus, portée par cette langue qui est aussi dans une très grande préciosité, une attention particulière portée aux étoffes, aux couleurs des robes et une espèce de gouaille aussi de loubarde. Donc j'aime beaucoup ce mélange des genres et je suis toujours très touchée par ce qu'écrit Eva Ionesco.
Arnaud.
Je suis un gros fan d'Eva Ionesco et ça ne cesse de monter de livre en livre. Parce que, en plus, quand vous avez lu plusieurs livres, notamment celui où elle raconte son histoire avec Christian Louboutin, ce qu'elle a connu ado et qu'on retrouve qui est absolument magnifique. Il y a des personnages récurrents. Par exemple, il y a un personnage qui est le personnage de Paquita, qui revient encore là dans ce livre. Il y a un concert des B-52s, pour ceux qui connaissent le groupe. Les filles peuvent rentrer si elles ont une soucroute sur la tête. Et Paquita arrive avec une boîte de William Sorin, de soucroute William Sorin sur la tête, et elle peut rentrer gratos. Mais rien que
tout ça,
ce
réel, agité, parce
que détail
Paquita,
est tellement beau. Et en fait, si vous voulez, c'est Eva Ionesco, c'est le grand écrivain de la réminiscence, et c'est très beau. Les deux premières pages, c'est aujourd'hui, et c'est les deux pages qui vont la faire rentrer dans la réminiscence, parce qu'il y a une chose qu'elle a, que je trouve magnifique, c'est la liberté qu'elle a dans le détail. Et elle écrit à propos des grilles des Tuileries qu'elles ont l'air peintes à la main. Et c'est tellement vrai, quand vous connaissez ces grilles, elles ont l'air d'avoir été peintes. Et là, soudainement, on rentre dans la réminiscence et le personnage de Charles, son amoureux, est juste magnifique. Déjà, on ne serait pas dans les années 80, il a une guitare carrée. Alors, pour ceux qui connaissent un peu le rock, avoir une guitare carrée, comme d'Ivo, dans les années 80,
c'est classe.
Quelque chose.
Je vois que tu fais les gros yeux, Jean-Marc.
Moi, ce livre m'a mis extrêmement mal à l'aise. Je le trouve effectivement très bien écrit, mais pour moi, il y a trois mots qui sont aveuglants et qu'elle n'écrit pas. C'est pédophilie, prostitution et viol. C'est-à-dire que sa mère est une proxénète. Elle prostitue sa fille, à qui elle fait faire des photos porno, des films porno, qu'elle livre à des pédophiles. Matzneff, tu l'as dit, elle dit que Polanski la tripote. Il semblerait que Rob Grier soit venu la regarder. Enfin, voilà, c'est-à-dire... Elle obtient de l'argent avec les photos, elle obtient une sorte de rémunération symbolique avec ses grands intellectuels, et elle la qualifie de mère abusive, ce que je trouve quand même un euphémisme fou. Elle a une mère qui la prostitue, et elle dit qu'elle est abusive. Et pour échapper à cette mère abusive, elle tombe dans les bras d'un pédophile, qu'elle appelle un grand amour. Alors, j'entends sa parole, et je ne la mets pas en doute.
Attends, c'est Charles que tu traites de pédophile.
Ah non, non, ça c'est pas possible.
Elle a 13 ans, il en a 15. Cette gamine, elle lui dit, je suis à la DAS, je suis suivie par un juge par enfant. Elle boit, elle se drogue, elle a une mère qui met des photos pour elle partout. Et qu'est-ce qu'il fait? Il l'emmène à l'hôtel en lui disant, on va pas trop montrer la carte d'identité pour voir quel âge tu as. C'est un pédophile.
Absolument
pas. Elle n'est pas consentante à 13 ans. Et en plus, ça, après, il veut avoir la tutelle. Est-ce qu'on a la tutelle
d'une
gamine avec laquelle qu'on a mise dans son lit?
Il n'a pas 15 ans, Charles, dans le roman. Il a 10 ans de plus qu'elle, dans mon souvenir.
Non, il a 15 ans de plus qu'elle.
Mais il conduit. 15 ans de plus qu'elle, voilà.
Conduit.
Oui. Il conduit
une majeure et mineure, mais enfin, c'est pas un pédophile.
Elle a 13 ans.
La question du consentement se pose, mais enfin, c'est pas...
Elle a 13 ans et lui a 15 ans de plus qu'elle.
Et la question du consentement se pose. Est-ce qu'on a oublié ce qu'a écrit Vanessa de Saint-Gorin il y a 4 ou 5 ans?
Et ce qu'elle raconte aujourd'hui, c'est que cet amour-là, ce grand amour-là, quand elle avait 13 ans et lui 15 ans de plus, l'a sauvé. C'est ce qu'elle raconte.
Et ce qu'elle dit.
Et le développement final, sans spoiler, dit aussi sa vision de la chose, d'ailleurs. C'est un livre que je trouve bancal. Sur l'écriture, je n'ai pas vu quelque chose de spécialement avec du relief, brillant, etc. Mais moi, je ne suis pas spécialement touché, bien que je pourrais l'être même générationnellement, par ce qu'écrit Eva Ionesco. L'histoire par rapport à sa mère, elle l'avait écrit d'ailleurs dans le livre précédent, etc. Elle le brosse ici. À un moment, ici, on voit Gabriel Mazneff, ami de sa mère, ami du réseau de sa mère, qui lui offre un stylo en or, quand même. Hein. C'est une scène avérée du livre. La première partie est trop longue pour ça, parce que la première partie, qui fait quand même la moitié du livre à elle seule, raconte juste sa rencontre avec Charles, les 15 ans de différence. Elle est, par ailleurs, à ce moment-là, consentante, etc. Les deux parties suivantes, qui à elles seules font la seconde partie du livre, sont à mon sens beaucoup plus intéressantes littérairement comme citoyennement, puisqu'elle raconte son rapport à sa mère, au foyer, aux fugues, à ses copines qui ont été elles-mêmes abusées, enfin ses collègues de foyer, et elle raconte sa libération par rapport à elle-même, ce qui va expliquer le développement et la fin du livre. La seconde moitié est superbe et universelle, la première moitié, pour moi, manque d'intérêt, et de la première moitié, il n'y avait pas de quoi en faire autant de pages. Et à mon sens, l'écriture n'est pas au niveau de la dramaturgie et des enjeux justement politiques de l'époque et de son destin à Eva Ionesco.
Elisabeth, tu vois,
je pense simplement que c'est difficile de parler à la place d'Eva Ionesco. Voilà, c'est tout.
Grand amour d'Eva Ionesco est publié chez Robert Laffont. C'est l'heure de vos coups de cœur avec des livres qui élargissent le programme et on commence avec toi, Jean-Marc.
Alors moi je voudrais vous parler d'une bande dessinée chez Dupuis qui s'appelle De Pierre et d'Os, d'après le livre de Bérengère Cournu et qui a été superbement mise en image par Jean-Paul Krasinski. 4 ans de travail pour un livre de 200 pages. On a tout, on a le Grand Nord, l'Arctique, on a la vie de cette jeune fille qui devient femme puis vieille femme. Enfin, c'est une très très belle bande dessinée. Et si j'ai quelques secondes de plus, je vais mettre un rapide coup de gueule sur un projet de taxation du livre d'occasion. Est-ce que c'est une bonne idée de le taxer? Je ne pense pas. Les éditeurs disent qu'il s'agit de mieux rémunérer les auteurs. Je pense qu'ils n'ont qu'à ouvrir leur portefeuille.
Merci de provoquer ce débat pour le courrier. Elisabeth.
Alors moi, c'est un livre de poche ce soir, c'est « Je sors ce soir » justement, de Guillaume Dustan, qui paraît en format poche chez POL, l'auteur de Nicolas Page et de Génie divin, et de ce qu'il appelait aussi sa trilogie autopornographique, dont « Je sors ce soir » est le deuxième volet. Et dans ce livre, en fait, on descend, on suit le narrateur dans une boîte de nuit, et on y passe la soirée, donc le livre se situe dans un lieu unique, pendant une nuit. On le suit au milieu des hommes, aux biceps musclés, des danseurs, des ex-amants, des coups d'un soir, et surtout des fantômes, de tous ces absents, de tous ces hommes qu'il a connus et qui sont morts, fauchés par le sida, par le VIH. Et en fait, en le relisant, je trouve que c'est un livre extrêmement poignant. Alors certes, il y a la danse, il y a la drogue, il y a le sexe, la drague, mais c'est surtout un homme seul, un homme qui va mourir et qui vit au milieu de ses fantômes. Et c'est un livre extrêmement beau et fort et certainement qui reste beaucoup, beaucoup plus excitant que beaucoup de choses qui se publient aujourd'hui.
Je sors ce soir de Guillaume Dustan qui reparaît en poche, donc en format poche POL. Hubert.
Alors moi, je vais parler de Jim Thompson, le grand écrivain qui avait écrit 1275 âmes que Bertrand Tavernier a adapté sous le titre de Coup de torchon. C'est Les arnaqueurs que Stephen Frears a adapté sous le même titre avec un scénario de Donald Westlake. C'est L'assassin qui est en moi que Michael Winterbottom avait adapté aussi en 2010. Les éditions Rivage qui avaient déjà tout retraduit parce que Jim Thompson avait été traduit une première fois et publié en France dans les années 50 à 70, mais mal traduit comme beaucoup de séries noires à l'époque. Les éditions Rivage ont tout retraduit depuis un certain nombre d'années, et là, ils republient 4 romans, donc Pottsville, 1280 âmes, qui est le vrai titre de 1275 âmes qui avait été caviardé, Les arnaqueurs, L'assassin qui est en moi et Nuit de fureur, traduit par Pierre Bondil, avec des superbes couvertures, justement, d'un autre grand de l'illustration de la bande dessinée, Miles Hyman, qui avait déjà fait des grands livres illustrés.
Chez Rivage, Jim Thompson, à toi, Arnaud.
Tout le monde connaît je crois, maintenant assez bien Claro, à la fois traducteur
et
romancier. Claro, c'est un peu Hercule au pays de la littérature, mais le genre d'Hercule, genre, il vient de finir le 12e travaux, il dit, vous n'en aviez pas un 13e. Et donc, là, il s'est lancé dans la retraduction complète de l'œuvre de Graham Greene. Alors, Graham Greene, voilà, là aussi, c'est comme Gene Thompson, hein. Je vois, il a écrit 22 livres, donc Claro va traduire les 22 livres de Graham Greene. Moi, je me souviens de ma lecture énamourée, hilarante, etc., de Notre agent à la Havane. Ce qui est intéressant, c'est que Claro, qui est spécialiste plutôt des écrivains américains, là, se retrouve avec un écrivain très british. Si je peux vous lire juste 5 lignes, ça va, j'ai le temps ?
Non, en fait, tu l'as pas. Donc...
Ok, super. Ouais, ouais. Eh ben, lisez. Donc, le premier s'appelle « Deux hommes en un ». C'est déjà tout un programme. Hein. C'est aux éditions Flammarion. C'est Graham Greene, traduit par Claro.
Merci, Arnaud. Et pour le temps qu'il me reste, j'aimerais vous parler d'un prix Nobel, puisque c'est comme ça qu'on appelle le prix suédois Astrid Lindgren, qui récompense chaque année un auteur ou une autrice de la littérature jeunesse. Et alors, évidemment, ça n'a pas le même écho que le Nobel qu'on connaît, mais voilà, la lauréate Nobel de la littérature jeunesse cette année est française, et c'est Marion Brunet, qui écrit aussi des polars, donc je ne peux que vous recommander, en plus de ce prix Nobel, la lecture des romans qu'on dit pour ados de Marion Brunet, d'autant que les ados sont un public qui n'est pas particulièrement captif, selon les dernières enquêtes, pour la lecture. Et ben voilà, lisez par exemple « Cent fois ni loi », ensemble, voire à voix haute. C'est un western dans l'Amérique des années 20 qui parle d'aujourd'hui, avec un personnage féminin magnifique qui emmène un jeune gars dans ses aventures et qui lui fait découvrir l'ivresse de la liberté autant que le prix à payer. Et il y a aussi Frangine, Dans le désordre, Cent fois ni loi, Marion Brunet. Donc, le tout est disponible en poche. Arnaud Vivian, Elisabeth Philippe, Jean-Marc Proust, Hubert Artus, merci pour vos lectures. Les prochains enregistrements du Masque auront lieu un vendredi. Ce sera le vendredi 9 mai, toujours depuis le Théâtre de l'Alliance Française. Et nous débattrons de l'actualité de la scène et du cinéma. Paul Laporte a réalisé Le Masque du jour avec Julie Garraud, Valentin Bobinet et Tahar Boukhlifa aujourd'hui. Merci à Ilinka Negulesco pour la coprogrammation et la préparation de l'émission avec Nina Malray. Rendez-vous même heure, même lieu, même motif et sur France Inter, évidemment.